Et vous écoutez France Inter, il est très exactement 13h. Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus au sommaire aujourd'hui. La cinquième vague de Covid sera plus longue que celle de cet été. Le pic hospitalier est attendu la semaine prochaine, mais pas de mesures radicales. Ce sont les premiers enseignements de la conférence de presse dirigée par Olivier Véran en ce moment même. Le rappel vaccinal est ouvert à partir de samedi à tous les adultes, 5 mois après la deuxième dose. Cela fait 25 millions de personnes en tout. Pas de problème de stock, dit le ministre. Réouverture de centres de vaccination dès ce week-end, on peut déjà réserver. Et puis il fait un pas de plus vers la vaccination des enfants. L'Europe représente aujourd'hui les 2/3 des nouvelles contaminations dans le monde. En Italie, on se rapproche un peu plus de l'obligation vaccinale. Les enseignants, notamment, y sont contraints. Nous irons dans ce journal également dans le nord de la France après la mort de 27 migrants hier en Manche. Les départs ont repris dès ce matin. Depuis Zagreb, le président de la République appelle à contrôler les flux de population aux frontières à l'intérieur de l'espace Schengen. Dans l'actualité encore, un homme poursuivi pour torture, élu à la tête d'Interpol. Changer d'assurance à tout moment dans le cadre d'un prêt immobilier sera bientôt possible. Et puis à 13h30, pour souffler, regard sur le marché du jouet à un mois de Noël. Avez-vous déjà fait vos achats, pénurie ou pas, plus cher que d'habitude ou pas? J'attends vos questions et témoignages, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter. Nos invités à 13h30, le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter, le 13-14.
Quelques 36 000 nouveaux cas de Covid hier en France. Cela fait près de 15 000 de plus qu'il y a une semaine. Et un millier de malades supplémentaires à l'hôpital. Le nombre de personnes en soins critiques augmente plus légèrement. Voilà le tableau de la France en pleine cinquième vague de Covid. Et comme une preuve que l'épidémie inquiète de nouveau, comme au plus fort de la première vague, conférence de presse ce jeudi. Elle se tient en ce moment même. C'est le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui est aux manettes.
Oui, le virus circule à nouveau. Il circule vite, il circule partout, en France et dans le monde. Oui, la France connaît à son tour une cinquième vague. Il n'y a aucune fatalité face à ce Covid et à ces cycles. Depuis 2 ans, la donne a changé. Et nous avons les moyens de nous prémunir individuellement et collectivement des conséquences dramatiques des premières vagues. Nous avons encore notre destin entre nos mains. Ainsi, et suite au Conseil de défense et de sécurité nationale qui s'est tenu hier, je ne vous annoncerai ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture anticipée des commerces, ni limitation des déplacements. À l'heure où nombre de nos voisins européens font face à la vague la plus violente depuis le début de la pandémie et sont contraints de prendre de telles mesures restrictives, nous faisons le choix de concilier liberté et responsabilité. Et nous considérons aujourd'hui que nous pouvons encore passer cette vague sans recourir aux outils les plus contraignants si nous savons utiliser pleinement les cartes que nous avons en main.
Pas les outils les plus contraignants donc, mais alors quels outils? C'est ce qu'a détaillé Olivier Véran là dans les minutes qui viennent de passer. Il est toujours en train de parler lors de cette conférence de presse. Bonjour Véronique Julien.
Bonjour.
Spécialiste des questions de santé à France Inter, ça correspond à ce qu'on vous annonce depuis hier sur France Inter. D'abord, la troisième dose pour tous les adultes et le rappel 5 mois après et non pas 6 mois.
Oui, effectivement. Dès samedi, tous les adultes complètement vaccinés pourront faire leur rappel au bout de 5 mois. Faute de ce rappel, leur passe sera désactivé à partir du 15 janvier. C'est donc plus qu'un encouragement, hein, et ce rappel vaut aussi pour ceux qui ont été infectés et qui ont fait une dose. Alors pourquoi cette nouvelle stratégie? Pour casser bien sûr la courbe au plus vite. Le rappel, on le sait, a un effet très rapide sur la production d'anticorps. Il booste les défenses au bout de quelques heures et dans des proportions impressionnantes. Une étude israélienne l'a démontré récemment. Par ailleurs, la Haute Autorité de Santé a publié ce matin un avis dans lequel elle préconise ce rappel à 5 mois pour les plus de 18 ans. Elle appuie son avis sur les dernières modélisations de l'Institut Pasteur qui viennent de sortir. L'Institut a évalué l'impact d'un rappel à 4, 5, 6 mois chez des personnes de plus de 65 ans, de plus de 50 ans, de plus de 40 ou de plus de 18 ans. Elle a imaginé tous les scénarios et là on s'aperçoit très vite que le scénario le plus efficace est celui du rappel à 5 mois. Pour les 18 ans et plus, il permettrait de réduire le pic de l'épidémie de 50%. Ce serait seulement 39% avec un délai de 6 mois. Un pic attendu, précise le ministère, pour début décembre.
Donc ce rappel pour tous les adultes de plus de 18 ans, ça fait 25 millions de personnes en tout, 5 mois après la deuxième dose. Ce sera 5 à 7 mois, ça entrera en compte dans le pass sanitaire à partir du 15 janvier. La vaccination des enfants aussi, le ministre a fait un pas de plus, alors que à propos de cette vaccination des enfants, donc Olivier Véran, l'Agence européenne des médicaments d'abord approuve l'usage de Pfizer pour les enfants de 5 à 11 ans. On n'y est pas, c'est un premier avis. La France y réfléchit, dit Olivier Véran.
Réfléchit, la communauté médicale est quand même assez partagée hein,
voilà,
sur cette question.
Pas avant 2022. Autre annonce ce matin, pression accrue sur les non-vaccinés, Véronique.
Oui, pression parce que... Oui, c'est 6 millions de vaccinés aujourd'hui. Les tests restent payants et ils vont voir, qui plus est, leur validité réduite de 72 à seulement 24 heures. Donc la contrainte, on a bien compris, va être beaucoup plus lourde. Hein.
Les masques, est-ce qu'il y a du nouveau ?
Oui, ça se durcit pour le port du masque. En tout cas, il va redevenir obligatoire ce masque en intérieur, même dans les lieux où on présente son pass sanitaire, c'est-à-dire salle de spectacle, musée, cinéma. Vous l'avez constaté dernièrement, ce n'était pas appliqué partout. C'était un peu la pagaille et chacun édictait ses propres règles.
Hein. Merci Véronique.
Et puis il y a aussi respecter les gestes barrières. Hein. Faut pas oublier, ça a été beaucoup...
Martelé.
Voilà.
Lors de cette conférence de presse qui se tient en ce moment même. On rappelle donc la dose de rappel ouverte à tous les adultes plus de 18 ans à partir de samedi. Ça fait 25 millions de personnes en tout.
Moins 6 déjà vaccinées.
Moins 6
donc
déjà vaccinées.
Donc 19 qui vont se précipiter sur Doctolib.
Et ce sera sur le pass sanitaire à partir du 15 janvier. Bonjour Gilles Bonnefond.
Bonjour.
Vous êtes le président des syndicats de pharmacie. Ça fait deux choses qui vous concernent, vous, les pharmacies, le test et le vaccin. Est-ce que vous êtes prêt ?
Oui, oui, en tout cas, on est prêt depuis cet été où on vaccine, on dépiste. On a connu des vagues très très importantes de dépistage cet été. Là, la vaccination contre la grippe continue et on va arriver un petit peu à la fin de la vaccination contre la grippe. Et puis voilà, on a un challenge devant nous avec 19 millions de personnes à vacciner dans les deux mois. Donc on va y arriver, mais on va y arriver avec les centres de vaccination, on va y arriver avec les médecins, avec les infirmiers, avec l'ensemble des acteurs qui vont pouvoir se mobiliser. Moi, je trouve que le discours est à la fois cohérent, appuyé sur des données scientifiques. Il simplifie le parcours en fonction de si on a eu le Covid ou pas le Covid. Voilà, le Covid compte pour une injection. Et derrière, eh bien, le pass sanitaire qui devient une arme. Parce que si vous ne faites pas votre rappel entre 5 et 7 mois,
voilà,
eh bien, vous n'avez plus votre pass sanitaire.
Et donc, pas besoin de renfort pour les pharmacies, sachant que cette dose de rappel, elle est ouverte donc maintenant à tous les adultes. 25 millions de personnes en tout, il y en a 6 qui ont déjà été vaccinés. Vous aurez des gens qui vont venir se faire tester toutes les 24 heures, possiblement. Ça va passer en pharmacie. Alors, il y a des nouveaux centres de vaccination qui vont rouvrir là dans les jours à venir, annonce Olivier Véran. Mais les pharmaciens vont tenir le coup.
Alors, l'avantage en pharmacie, c'est qu'on a toute l'équipe, environ 5 personnes, et maintenant, les préparateurs sont habilités à vacciner. On a demandé à ce que les étudiants qui viennent faire des stages puissent être aussi habilités à vacciner dans les pharmacies. L'avantage, c'est qu'on est une équipe. Sur le dépistage, il faut faire attention, parce que le dépistage reste pris en charge par l'assurance maladie. Il est uniquement payant pour les personnes qui ne sont pas vaccinées,
oui,
qui sont adultes et qui n'ont pas d'ordonnance. Donc, il faut se dépister actuellement parce que c'est le seul moyen de casser les clusters le plus vite possible.
Merci Gilles Bonnefond d'avoir pris quelques minutes pour répondre aux questions de France Inter. S'agissant de la dose de rappel, Olivier Véran précise qu'on peut prendre rendez-vous sur les sites que vous connaissez par cœur maintenant, dès aujourd'hui, dès maintenant. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Service politique de France Inter, alors que cette conférence de presse continue. Simon, la pression un peu plus forte sur les non-vaccinés.
Pression renforcée en effet, avec ces tests qui ne seront plus valables que 24 heures, on le disait, contre 72 actuellement. Ça veut dire qu'un non-vacciné concrètement, qui veut vivre à peu près normalement, aller au cinéma, au restaurant, devra désormais passer un test par jour. Clairement, c'est une incitation à se faire vacciner. Mais pression relative, vous avez raison de le souligner. Bruno, le gouvernement français n'a pas décidé de reconfiner les non-vaccinés, comme l'avait fait l'Autriche avant finalement de confiner toute sa population. Il ne leur interdit pas non plus l'accès à certains lieux publics, comme en Allemagne. Il ne rend pas la vaccination obligatoire, comme le réclament par exemple les sénateurs socialistes. On entendait ce matin leur patron Patrick Kanner sur France Inter. Emmanuel Macron a fixé la ligne, éviter tout ce qui pourrait exacerber les divisions de la société, a fortiori à moins de 5 mois de la présidence. présidentielle. En fait, quand le gouvernement assure vouloir faire peser la contrainte avant tout sur ceux qui ne prennent pas leurs responsabilités, eh bien c'est ce qu'on appelle un élément de langage, car en réalité, avec la généralisation de la campagne de rappel, c'est surtout sur ceux qui sont déjà vaccinés que pèse ce nouvel effort.
Et on ajoute cet élément masque obligatoire partout en intérieur, dans les lieux publics. Évidemment, voilà une autre annonce. Un coup d'œil chez nos voisins européens, alors que Jérôme Salomon, le numéro 2 du ministère de la Santé, a annoncé que 2/3 des nouvelles contaminations au Covid dans le monde actuellement étaient en Europe. Un pays européen, l'Italie, qui va un voire deux crans plus loin que la France. Avec les dernières mesures, Bruce de Galzin, on est proche de l'obligation vaccinale.
Il y avait les soignants, désormais les forces de l'ordre, les militaires, le personnel scolaire devront obligatoirement être vaccinés avant le 15 décembre. Le pass sanitaire devient lui obligatoire dans les hôtels, pour les touristes donc, et dans tous les transports en commun, bus et métro notamment, d'ici 2 semaines. Le pass sanitaire ne sera valable plus que 9 mois et non 12. Mais un pass renforcé voit le jour. Il exclut les non-vaccinés qui ne pourront plus aller au restaurant, sortir dans les bars, les théâtres, les cinémas ou les stades, et même avec un test négatif. Les personnes vaccinées, elles, ne subiront aucune nouvelle restriction. Mais le gouvernement insiste sur la 3e dose, dès le 5e mois après la 2e. Et elle sera étendue aux plus de 18 ans dès la semaine prochaine. Quant aux enfants de 5 à 11 ans, le gouvernement attend la décision de l'autorité du médicament, mais prépare déjà une campagne d'information et compte bien recevoir les premières doses pédiatriques d'ici fin décembre. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
En France, le protocole sanitaire en entreprise va lui aussi changer, mais légèrement entrer en vigueur lundi. Rien de nouveau sur le télétravail, mais renforcement des règles sanitaires dans les cantines et pour les pots en entreprise et incitation à beaucoup plus aérer. Et puis, qu'en sera-t-il dans les écoles? Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, est en train de parler en ce moment même. Il fixe un principe, on vous donnera les détails dès qu'ils arrivent, tester plutôt que fermer la classe. Voilà ce que l'on peut dire de ces nouvelles annonces à propos du Covid en France. La dose de rappel pour tous les adultes à partir de 18 ans, un pas de plus, mais pas de décision à propos du vaccin des enfants. Le masque obligatoire partout en intérieur, dans les lieux publics. Et s'il y a de nouvelles annonces, évidemment, on vous tient au courant. Comment éviter qu'un drame comme celui d'hier se reproduise au large des côtes du nord de la France? 27 migrants entre France et Royaume-Uni morts dans le naufrage de leur embarcation. Nous revenons sur les circonstances du drame dans un instant. Une réunion de crise se tenait ce matin à Matignon. Le président de la République la suivait à la fois de près et à distance, puisqu'il est en déplacement en Croatie. Bonjour Maxence Lambrec.
Bonjour.
En direct de Zagreb, c'est Emmanuel Macron qui ébauche la réponse française à cette tragédie.
En effet, la France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière, déclarait-il ici hier soir en arrivant. Comment ? En laissant des forces de l'ordre jour et nuit sur le littoral. Il promet un renforcement des contrôles comme des sauvetages.
Nous allons d'une part maintenir évidemment cette présence maximale, continuer d'utiliser aussi les drones, en particulier ceux de l'armée, mobiliser des réservistes, demander une mobilisation supplémentaire des Britanniques, car je rappelle qu'en à cet égard, nous tenons en quelque sorte la frontière pour les Britanniques et nous allons renforcer les moyens de sauvetage en mer.
Vous l'entendez, Emmanuel Macron met aussi la pression sur les Britanniques accusés d'instrumentaliser ce drame, de ne pas en faire assez dans la lutte contre les réseaux de passeurs. Lui assure que la France a démantelé cette année 44 réseaux, interpellé 1500 passeurs et sauvé près de 8000 migrants en mer. Mais Paris se sent seul, il réclame une réponse européenne, Allemagne, Pays-Bas, Belgique. Des réunions sont prévues avec les homologues de Gérald Darmanin, car la France, dit-il, n'est qu'un pays de transit. Il espère avec la présidence française du Conseil de l'Union européenne début 2022 aboutir enfin à une réforme de l'espace Schengen, un renforcement de la police aux frontières. La Croatie est d'ailleurs candidate pour intégrer cet espace, elle dont la moitié de sa police est déployée aux frontières de l'UE.
Maxence Lambrec en direct de Zagreb. De son côté, la Grande-Bretagne propose des patrouilles communes franco-britanniques sur le littoral français. Depuis le début de l'année, plus de 30 000 migrants ont donc quitté les côtes françaises dans l'espoir de rejoindre le Royaume-Uni au péril de leur vie. On le mesure de manière encore plus aiguë depuis le naufrage d'hier. Bonjour Faustine Calmel.
Bonjour.
Avec Lucien Lefebvre, vous êtes en direct de Grande-Synthe, ces côtes nord de la France d'où partent les migrants. Avant de revenir sur les circonstances du drame hier, un fait marquant, Faustine, il y a eu dès ce matin de nouveaux départs.
Oui, des tentatives encore et encore par bateau. À la gare de Calais ce matin, j'ai croisé tout un groupe d'hommes et de femmes. Certains avaient encore leur gilet de sauvetage rouge sur les épaules, les pieds trempés, les vestes mouillées. Près de 70 migrants, selon la préfecture du Pas-de-Calais, qui ont échoué à prendre la mer et se sont donc retrouvés en ville. Car de toute façon, même le naufrage d'hier, même 27 morts, cela ne les arrêtera pas, confirme Juliette Delaplace, qui travaille pour le Secours catholique à Calais.
Dès hier, on discutait avec des personnes exilées et on sent bien l'angoisse que ça génère en fait, chaque annonce d'un naufrage, parce que ça les renvoie à leur propre situation. C'est d'une violence inouïe. Les personnes nous parlent en fait de leur crainte de la traversée, mais vont continuer à le faire parce qu'en fait ils n'ont pas d'autre choix aujourd'hui. Donc il est vraiment temps, il est vraiment urgent que les autorités négocient des voies sûres de migration vers le Royaume-Uni.
Et les migrants, ils n'attendront pas. Armad, iranien, croisé sur un campement ici à Grande-Synthe, me disait tout à l'heure que de toute façon, ici, il ne vit pas, alors il n'a pas peur de mourir.
Est-ce qu'on en sait plus, Faustine, sur les circonstances du drame hier ?
Alors c'est un gros bateau pneumatique qui s'est dégonflé, mais la procureure de Lille ne précise pas les circonstances, une avarie, une collision, peut-être a-t-il chaviré. 27 personnes en tout cas sont décédées, 17 hommes, 7 femmes et 3 jeunes adolescents. Il y a 2 rescapés, un Somalien, un Irakien, toujours hospitalisés, mais leur pronostic vital n'est plus engagé. Le bilan en tout cas n'est pas définitif puisque l'on ne sait toujours pas combien de personnes étaient exactement à bord. On ne sait pas non plus précisément d'où est parti ce bateau.
En tout cas, dès hier soir, un premier rassemblement près du port de Calais s'est improvisé en hommage aux victimes. D'autres gestes et cérémonies émailleront la journée.
Oui, 18h à Dunkerque, un rassemblement, 18h30 à Calais. Comme à chaque décès, des militants et des proches se rassemblent pour rendre hommage aux victimes. Et puis enfin, hommage prévu aussi ce soir, 20h, ce sera là à Paris, place de la République.
Faustine Calmel en direct dans le nord de la France à Grande-Synthe avec Lucien Lefebvre pour France Inter. Alors depuis hier, au-delà de l'émotion, beaucoup de réactions politiques pointent la responsabilité des passeurs. Où en est l'enquête ? Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
Le ministre de l'Intérieur annonce 5 arrestations. Le parquet de Lille, qui est chargé de l'enquête, est plus prudent.
Oui, il n'y a pas, dit le parquet de Lille, de lien objectivé entre les 5 interpellations annoncées par le ministre et le drame d'hier soir. Les investigations sont donc toujours en cours sous la direction de la GIRS de Lille, la juridiction interrégionale spécialisée. Une enquête ouverte pour homicide et blessures involontaires, association de malfaiteurs et aide à l'entrée et au séjour irrégulier en bande organisée. Les enquêteurs attendent notamment de pouvoir entendre ces deux hommes qui ont survécu au naufrage. Ils vont peut-être pouvoir expliquer pourquoi le navire a coulé et donner des informations sur ceux qui ont affrété cette embarcation. Il faut savoir qu'il y a tous les jours dans la région des interpellations de personnes soupçonnées d'organiser des traversées clandestines, 1500 depuis le début de l'année. Derrière, ce sont de véritables structures mafieuses pour une activité très lucrative. Un important réseau a été démantelé la semaine dernière. Il est soupçonné d'avoir engrangé 3 millions d'euros de bénéfices en un peu plus d'un an.
À l'autre extrémité de l'Europe, le climat est toujours à la tension à la frontière entre Pologne et Biélorussie. Selon la Pologne, plus de 230 personnes ont tenté de passer la frontière hier soir avec l'aide active de soldats biélorusses. Je reviens aux annonces concernant les mesures anti-Covid et les annonces notamment du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer qui fixe ce principe. Les classes d'école primaire ne seront plus automatiquement fermées en cas de contamination d'un élève. Il y aura des dépistages plus systématiques. 8000 classes sont actuellement fermées dans les écoles primaires selon les syndicats de l'éducation. C'était 4000 vendredi dernier. Voici un magnifique exemple de réel politique. Un homme visé par plusieurs plaintes pour torture prend la tête de l'Organisation internationale de police criminelle, Interpol, dont le siège est en France et qui promeut la coopération policière internationale. Le général des Émirats Arabes Unis, Ahmed Nasser Al-Rassi, a été élu ce matin en Turquie, où se tient l'Assemblée générale d'Interpol. Y aurait-il un tout petit lien ? Les Émirats sont le deuxième contributeur au budget de l'organisation. Christian Chéneau, élection qui plus est, sans obstacle. Hein.
Oui, un scrutin dans un fauteuil avec près de 70% des voix face à la candidate tchèque. Malgré les critiques très vives des ONG et des défenseurs des droits de l'homme, le général El-Raïssi va donc occuper le poste, certes honorifique mais prestigieux, de président d'Interpol pour les 4 prochaines années à Lyon. Vous l'avez dit, les Émirats Arabes Unis pèsent lourd au sein de l'organisation policière avec un don supplémentaire de 50 millions d'euros en plus de leur contribution annuelle. Alors la France a-t-elle voté en faveur du général El-Raïssi ? Le ministère de l'Intérieur que nous avons contacté n'a pas souhaité faire de commentaires. En tout cas, la lune de miel entre Paris et Abu Dhabi continue Emmanuel Macron pourrait d'ailleurs se rendre dans les Émirats Arabes Unis début décembre.
Et en quelques mots, Christian, le profil de ce général Al-Raïssi ?
Alors c'est un rouage clé de l'appareil sécuritaire émirien. Le général Al-Raïssi a mis en place un système sophistiqué de surveillance de la population aux Émirats avec l'introduction de la reconnaissance faciale, de drones, de logiciels d'écoute des conversations téléphoniques et de contrôle des réseaux sociaux. Avec lui, Big Brother n'est plus de la fiction mais de la réalité. Les ONG attirent l'attention sur le cas d'Ahmed Mansour, un opposant détenu depuis 2017 dans une cellule de 4 mètres carrés dans des conditions inhumaines.
Ce 25 novembre est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. En début de semaine, le ministère de l'Intérieur a paru publier les statistiques des violences conjugales, ce qui ne recouvre évidemment pas toutes les violences faites aux femmes. Elles ont augmenté de 10% l'année dernière. En ce 25 novembre, le gouvernement promet l'ouverture de 1000 places d'hébergement d'urgence supplémentaires l'année prochaine, la mise à disposition de 5000 téléphones graves danger en plus et le lancement d'une semaine de l'égalité filles-garçons à l'école autour du 8 mars. Mais puisque c'est une journée internationale, allons à l'étranger, en Turquie, où la situation est particulièrement alarmante. En juillet, le pays s'est désengagé d'une convention internationale qui contraint les États à protéger les femmes sur les violences faites aux femmes en toute impunité à Istanbul. Vous avez recueilli un témoignage saisissant, Anna de Langer.
Le 23 mars dernier, Zeynep a failli mourir. Son ex-petite amie l'a séquestré, frappé pendant des heures avec une batte de baseball. Il a cassé son bras droit. Un mois et demi plus tard, la jeune femme l'a vu ressortir libre du tribunal et écopée d'une peine minime. Elle en a perdu le sommeil.
Il sait où je vis. Le soir, quand je me couche, je me dis « Ah, il ne m'est rien arrivé aujourd'hui. Je suis toujours en alerte. Ceux qui ont rendu ce jugement l'ont fait en connaissance de cause. »
L'indulgence de certains juges, l'indifférence de certains policiers, moins que les lois, c'est tout un climat que dénoncent les ONG féministes en Turquie. Et le retrait de la Convention d'Istanbul n'aidera pas à changer les mentalités, soupire Merve Karabulut, membre d'une association de lutte contre les violences. Cette psychologue se dit particulièrement inquiète pour les jeunes femmes.
Dans les sociétés comme la nôtre, où les relations hors mariage ne sont pas considérées comme légitimes ou ne sont pas toujours vues d'un bon œil, les victimes, souvent jeunes, n'ont aucun endroit où aller, contrairement aux victimes de violences commises au sein d'un mariage. La plupart ne portent pas plainte et cela conforte les agresseurs. Le retrait de la Convention d'Istanbul a déjà de lourds effets.
Depuis le début de l'année, plus de 350 femmes ont été tuées par un homme en Turquie. Anne Angloire, Istanbul, RFI pour France Inter.
En France, autre annonce en ce 25 novembre, celle de la ministre de la Culture. Les subventions aux compagnies de spectacles vivants seront conditionnées, promet Roselyne Bachelot, à des engagements à lutter contre les violences et le harcèlement sexuel. Une proposition de loi soumise aujourd'hui aux députés vous intéressera si vous êtes en pleine négociation ou renégociation de l'assurance pour un prêt immobilier. La disposition principale de ce texte, c'est de permettre aux emprunteurs de résilier à tout moment l'assurance pour faire jouer la concurrence. Agnès Soubirin.
Même si la loi a évolué depuis 10 ans, il est encore très difficile de changer d'assurance emprunteur en cours de crédit. Et les banques, qui trustent 88% du marché et qui réalisent une marge sans équivalent dans le secteur de l'assurance de 68% sur ce type de contrat, n'aident pas à la simplification des démarches. Une situation que dénonce la députée Agir de Seine-et-Marne, Patricia Lemoine, qui défend le texte.
Sur les primo-accédants, les foyers les plus modestes, qui ne sont pas toujours rodés à cet exercice de mise en concurrence, le fait que d'emblée, au moment où vous signez un contrat, on vous précise de façon claire et sans ambiguïté qu'à tout moment, vous pourrez procéder à la résiliation de votre assurance emprunteur, c'est leur donner aussi la possibilité, au cours de leur contrat de crédit, de pouvoir faire des économies et de récupérer des gains de pouvoir d'achat.
Des économies que l'UFC-Que choisira chiffrer grâce à un comparateur d'assurance, Alain Bazot.
Un couple qui aurait 35 ans, qui a souscrit un crédit il y a 5 ans, il peut espérer une économie de 13 000 euros. On n'est pas sur des dizaines ou des centaines d'euros, c'est considérable.
L'association estime ainsi que le montant total des économies réalisées par les emprunteurs pourrait atteindre 550 millions d'euros par an.
Et ce texte présenté par le groupe Agir, proche de la majorité, devrait être adopté. Sauf surprise, le ministre de l'économie lui apporte son soutien. Stéphane Richard va bel et bien devoir quitter la présidence et la direction d'Orange, l'opérateur de télécom, Nous vous annoncions hier sa condamnation dans l'affaire de l'arbitrage entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais, arbitrage jugé frauduleux. Stéphane Richard a présenté sa démission. L'arbitrage, c'était en 2007-2008. Christine Lagarde, alors ministre de l'économie, lui était son directeur de cabinet. Christine Lagarde, aujourd'hui à la tête de la Banque Centrale Européenne, avait été condamnée pour négligence, mais dispensée de peine par la Cour de justice de la République qui juge les ministres. Stéphane Richard, lui, au pénal, est donc condamné à un an de prison avec sursis, 50 000 euros d'amende. Il était ce matin l'invité de France Inter.
C'est d'abord de l'incompréhension, de la colère aussi, hein, que moi j'éprouve, et un sentiment d'injustice au fond. Tout le monde voit très bien que c'est pas moi qui, en 2007, suis arrivé avec l'idée de faire un arbitrage. Je connaissais absolument pas cette affaire, je connaissais pas Bernard Tapie. Est-ce qu'il est normal qu'un directeur de cabinet, dans un système comme celui-là, paye effectivement les conséquences de cette décision? Moi, je ne crois pas. Et d'ailleurs, je constate que beaucoup de personnes estiment qu'il y a une très grande injustice. Je veux dire, quand on sert l'État, quand on sert une entreprise, certes, on doit être exemplaire, mais on doit d'abord être efficace. Et je ne comprends pas ce raisonnement dans lequel, finalement, quelqu'un qui n'a pas de responsabilité, voire qui est délinquant, un petit trafiquant, un voleur, bon ben lui, il n'a pas de problème, il n'a pas trahi la confiance du public, c'est normal qu'il soit trafiquant ou voleur. Donc finalement, on va être beaucoup plus indulgent avec lui que quelqu'un qui a pris des responsabilités, qui a pris des risques. Et celui-là, par contre, eh bien, il va être sanctionné beaucoup plus lourdement dans ce cas. Je pense que cette affaire doit faire réfléchir tout le monde.
Stéphane Richard avec Léa Salamé ce matin sur France Inter. Il quittera Orange le 31 janvier, dans un peu plus de 2 mois. Au plus tard, avant, si une nouvelle gouvernance est mise en place, les fonctions de président et de directeur général devraient être dissociées. Le premier actionnaire d'Orange, c'est l'État, à plus de 20% du capital. Un deuxième prix littéraire pour la camarade de France Inter, Clara Dupont-Monod. Elle a déjà remporté, il y a quelques semaines, le prix Fémina. Et bien, c'est elle qui remporte le Goncourt des lycéens 2021 pour S'adapter, publié chez Stock. On l'embrasse. À la rubrique Quoi de neuf en culture en cette semaine, en cette fin d'année 2021, il y a aussi Les Beatles, le premier volet d'un documentaire en 3 parties est diffusé ce soir sur la plateforme Disney+. Le réalisateur Peter Jackson exploite quelques 60 heures de sessions d'enregistrement et de discussions en janvier 1969 pendant la préparation de l'album Let It Be, le dernier qui sortira. Une petite partie de ces images avait déjà servi à un documentaire. Celui-ci élargit la focale, Mathieu Culeron, et nous permet d'écouter de la bonne musique.
En plongeant dans les rushs du film sur les Beatles Let It Be que le réalisateur du Seigneur des Anneaux a l'idée de ce documentaire inédit. 6 heures de prise de vue dans lesquelles on voit John, Paul, George et Ringo chercher, hésiter et même s'embrouiller lors de sessions de l'ultime disque des Beatles à sortir qui s'appelle alors Get Back.
Say we did half of them this Thursday.
Des sessions qui montrent que parfois rien ne va plus au sein des stars de Liverpool. George Harrison en particulier trouve que le groupe fait du surplace et veut donner plus de place à ses propres composition. Devant l'intransigeance du couple Lennon-McCartney, il part en plein enregistrement. John Lennon, sans pitié, propose de le remplacer par Eric Clapton s'il ne revient pas.
We're talking about 14 songs we hope to get.
Les Beatles se jouent ensemble et plaisantent comme ils l'ont toujours fait. Mais l'énergie n'est plus si intense, seul Paul semble porter le projet à bout de bras. Cette série documentaire très bien filmée est une intrusion inégalée dans l'intimité des Beatles sur la fin du plus grand groupe de pop de tous les temps, résumée par cet échange où George Harrison, excédé, déclare « Je crois qu'on va divorcer ». Mais on s'en approche, tu sais, rajoute Paul. John Lennon, quant à lui, termine par cette interrogation « Mais qui va garder les enfants ?»
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be.
Et le documentaire s'appelle Get Back. Le premier épisode est visible aujourd'hui sur Disney+. Les deux autres vendredi prochain, puis samedi. Un mot pour vous rappeler les annonces qui ont été faites, les nouvelles mesures de lutte contre le Covid, la 5e vague fulgurante. D'abord, le masque obligatoire en intérieur, la validité des tests si vous n'êtes pas vacciné et pour obtenir quand même le pass sanitaire, cette validité ramenée de 72 à 24 heures. Et puis la 3e dose de vaccin ouverte à tous les plus de 18 ans dès samedi. 3e dose qu'il faudra faire entre 5 et 7 mois après la 2e dose. Le pass se désactive après 7 mois, le 15 janvier, si vous n'avez pas fait cette dose de rappel. Par ailleurs, Doctolib, l'un des sites pour réserver et déjà surchargé. Olivier Véran assure que cela va se résorber dans la journée. Il assure également qu'il y aura les stocks de vaccins pour assurer cette 3e dose pour tous les adultes, ce qui représente en tout 25 millions de personnes. Dans un instant, elle est déjà en studio, Élodie Calac pour la météo, puis les invités du 13-14.
France Inter M.
Age of Rage Divovanov, du 27 novembre au 2 décembre à la Villette. Maître incontesté de projets grandioses, Divovanov retrace l'histoire de la dynastie royale des Atrides et de la guerre de Troie dans une mise en scène spectaculaire. Récit théâtral unique, musique live, vidéo et danse par Wim van de Kebus façonnent une fresque haletante mêlant meurtre, vengeance et folie. Age of Rage Divovanov à la Villette, un événement France Inter.
France Culture et Arte créent Et maintenant, le Festival international des idées de demain. Suite à la pandémie, beaucoup d'idées sont sur la table pour envisager l'avenir. Et maintenant, on se rencontre et on en discute. Débats, documentaires, spectacles, le tribunal pour les générations futures, chasse au trésor des idées, des ateliers de réalité virtuelle, de bruitage, de géopolitique et plus encore. Le 29 novembre, à la Maison de la Radio et de la Musique et sur un site dédié, de 10h30 à 23h, avec le soutien de l'Agence Nationale de la Recherche. Infos et inscriptions, et maintenant-lefestival.fr.
13h29.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
À toutes jambes et tranquillement avec Élodie Calac. Bonjour Élodie.
Bonjour à tous.
C'est encore pluvieux au sud, c'est plus calme au nord.
Oui, sur la moitié nord, on a quand même beaucoup de nuages, quelques éclaircies de temps en temps qui deviennent belles sur les côtes de la Manche où le vent de nord-est reste marqué. On a quelques averses qui circulent entre le sud de la Bretagne, la région parisienne et le nord de la Seine. En allant vers le sud, là, c'est encore perturbé avec des pluies parfois soutenues vers le Pays Basque. Autour de la Méditerranée, encore des averses au programme, parfois marquées ou orageuses. En montagne, c'est de la neige vers 1000 à 1200 mètres. Il fait froid dans l'Est, seulement 2 degrés à Belfort, 4 à Metz, 5 à Saint-Étienne, 7 degrés à Tours, Bordeaux ou Grenoble, 8 degrés à Paris, 9 à Lille ou à Deauville, 15 degrés pour Toulon et 17 pour Ajaccio.
Pas mal, 17.
Oui, demain, retour du soleil pour le Sud-Est, hein, sauf en Corse, toujours des averses. Et puis une nouvelle dégradation gagnera le Nord-Ouest et elle apportera de la neige en pleine sur le Nord-Est dans la nuit de vendredi à samedi.
C'est bien noté. Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvy.
Dans un mois exactement, beaucoup d'entre nous seront au pied du sapin à déchirer quelques paquets colorés. À un mois de Noël exactement et à la veille du Black Friday. Question sur le marché du jouet avec nos invités jusqu'à 13h45. Ils concentrent beaucoup des questions du moment. Pénurie ou pas? Hausse des prix ou pas? Les mois de confinement ont-ils changé les habitudes? La cinquième vague de Covid va-t-elle stopper la dynamique qui semblait revenir? Le dernier trimestre représente la moitié des ventes annuelles de jouets. Alors est-ce que vous avez déjà fait vos achats? Est-ce que vous avez trouvé ce que vous vouliez? Et où, en ligne, dans un grand magasin, les mois de confinement ont-ils changé vos habitudes? 01 45 24 7000, l'appli France Inter, rubrique Réagir pour vos questions et témoignages. Nos invités sont Frédéric Teute, vice-présidente de NPD qui observe nos habitudes de consommation, et le directeur général de la Fédération française des industries, jouets et périculture, Christophe Drevet. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Frédéric Teute, quand les achats de Noël commencent-ils traditionnellement? Est-ce qu'ils ont commencé plus tôt cette année?
Alors, traditionnellement, ils commencent à partir des vacances de la Toussaint où les enfants reçoivent les catalogues à la maison, commencent à entourer les jouets sur le catalogue et les parents et le Père Noël s'y mettent. Donc là, effectivement, on a vu que les ventes se sont un petit peu emballées sur les deux premières semaines du mois de novembre et on a une tendance positive. Donc oui, c'est bien commencé.
On a retrouvé, Christophe Drevet, les chiffres de 2019 en termes de marché de Noël.
Alors, on les a retrouvés, on les a même dépassés, puisque là, à date, hein, à mi-novembre, on est à peu près à plus 8% par rapport à 2019. Donc, on est bien meilleur que 2020 avec les confinements et la situation que l'on connaît. Ouais. Mais on a même rattrapé 2019. Et ça, c'est en France, mais c'est au niveau mondial qu'il y a ce dynamisme du marché du jouet.
Vous l'interprétez comment ?
Bah, en fait, on a envie de faire, en particulier de cette année, après deux années extrêmement compliquées, et on se rappelle que Noël dernier, on était à 6 au maximum, ouais. Hein, on pouvait pas se réunir plus facilement que ça. Là, il y a une envie de recréer, c'est une grande fête familiale, de recréer un événement qui soit le plus inoubliable possible, et c'est le moment particulier où on veut faire plaisir aux enfants.
Est-ce que vous redoutez que la cinquième vague de Covid freine cette dynamique, Christophe Drevet?
L'envie d'offrir des cadeaux et des jouets à ses enfants, elle est là, Covid ou pas Covid, on l'a vu. Hein. Alors après, ça peut avoir un impact sur les circuits de distribution. Oui. Voilà, aujourd'hui, tous les circuits de distribution restent ouverts. Les magasins spécialisés, les GSA mettent en place tous les systèmes pour réguler.
GSA hein. Pour grande surface.
Grande surface alimentaire, les hypermarchés, okay. Pour faire plus simple. Et on voit que voilà, tout est fait pour bien canaliser le mieux possible les choses. Donc les parents, les grands-parents ont envie de faire leurs achats et puis ça se constate concrètement dans les magasins en ce moment.
Frédéric Teut, les achats en ligne, plus 22% cette année par rapport à 2020. Mais vous dites, les Français achètent plus que d'autres en magasin leurs jouets.
Oui, effectivement, c'est une spécificité française. On a vu que les Français sont revenus en magasin pour soutenir le petit commerce de détail. Et en ça, on est un petit peu différent de ce qui se passe en Angleterre ou en Allemagne, où après avoir acheté en ligne pendant des mois et des mois pendant le confinement, depuis mars 2020, en fait, les Anglais et les Allemands continuent sur ces habitudes-là. Mais nous, en France, on voit en fait que le circuit des spécialistes, le circuit traditionnel, est très dynamique et continue à gagner des parts de marché.
Et quand vous dites circuit traditionnel, c'est les grandes surfaces de jouets, c'est les petits magasins de centre-ville, c'est les deux, c'est quoi ?
C'est les deux, ouais. Effectivement, c'est les deux. On voit un petit changement par rapport aux habitudes d'avant, parce qu'en fait, beaucoup d'entre nous sommes en télétravail. De ce fait, on n'achète pas forcément nos jouets au même endroit qu'on les achetait auparavant. Mais on reste fidèle aux spécialistes jouets.
Alors, parlons des tendances de cette année. Pokémon, Lego, figurines, Funko Pop, c'est bien ça ?
Oui, alors là, vous parlez des tendances qui sont à la fois adultes, mais aussi kidultes.
Okay.
Donc, les kidultes, ce sont les jeunes de plus de 12 ans qui continuent à jouer ou qui ont recommencé à jouer. Et c'est le cas pour beaucoup de jeunes adultes qui reviennent sur Pokémon comme de leur enfance. Et tout ça, ça s'explique par les 25 ans de Pokémon.
Et ça, c'est un effet du confinement aussi, ce phénomène kidulte.
Oui, tout à fait. Ouais. On a vu que les Français et les Européens aussi ont recommencé à jouer aux jeux de société, soit entre adultes, mais aussi ouais. En famille. C'était un bon moyen pour rester tous ensemble loin des écrans. Donc le jeu de société est à plus 20%, imaginez bien, par rapport à 2020. Et plus 37% par rapport à 2019. Donc c'est une vraie tendance de fond, le jeu et le puzzle.
Encore un mot étrange et je redonne la parole à Christophe Drevet. Unboxing, ça fait partie des tendances. Qu'est-ce que c'est ça, unboxing ?
Alors l'unboxing, ça s'inspire des vidéos qu'on va trouver sur YouTube, Instagram ou TikTok, où les enfants ou les adultes effeuillent, si vous voulez, le packaging, le paquet, pour découvrir le jouet à l'intérieur. Et ça, c'est une tendance très très forte que l'on constate depuis 2 ou 3 ans, et qui encourage la collection, puisqu'on achète un paquet à l'aveugle. On ne sait pas effectivement ce qu'il y a à l'intérieur.
Christophe Drevet, pénurie ou pas ?
Non, pas de pénurie. Voilà.
Aucun rayon, aucun produit.
Non, alors il peut y avoir, mais ça c'est spécifique au marché du jouet. Vous avez dit en ouais. Début d'émission que 50% des ventes se font sur le dernier trimestre. Et on peut même rajouter qu'un tiers des ventes de l'année se font sur le mois de décembre uniquement. Okay. Donc c'est un marché qui est sujet à des ruptures de stock parce que les campagnes d'achat se font 6 mois, 9 mois, quelquefois 1 an à l'avance. Et donc c'est très difficile de prévoir le goût et le choix des enfants ouais. 1 an à l'avance. Donc par nature, à Noël, on a toujours ce phénomène de la course aux jouets. Si on s'y prend à la dernière minute, la semaine avant Noël, il peut manquer des références sur les rayons. Et donc par rapport à la fameuse liste, si on n'a pas le jouet numéro 1, on va aller chercher le jouet numéro 2, voire le jouet numéro 3. Ce phénomène a toujours existé et va continuer à exister cette année. Après, en raison des problèmes de transport, d'acheminement, voilà. Il peut y avoir des phénomènes un petit peu plus marqués, voilà, mais ça peut concerner une référence dans une collection, dans une gamme, mais l'offre, elle est bien là et elle va bien être là jusqu'au 24 au soir.
Et vous dites aussi pas de hausse de prix, ce qui est surprenant, mais vous allez nous expliquer pourquoi. Pas de hausse de prix en tout cas cette année. On se dit que entre les difficultés à se fournir en matières premières, les hausses très fortes de prix de transport, le transport ça peut représenter jusqu'à un quart du coût final aujourd'hui, voire au-delà, c'était 5% il y a quelques années, mais pas de hausse des prix néanmoins. C'est l'année prochaine que tout ça va se répercuter ?
Alors, il y a eu un vrai travail de fait à la fois des fabricants, des distributeurs pour contenir ces hausses qui sont arrivées extrêmement brutalement, si on parle du transport maritime.
Oui.
Quand vous parlez de l'impact sur la marge, ça concerne les produits les plus volumineux,
oui,
bien entendu. Après, les prix sont fixés quasiment un an à l'avance. Hein, ils sont vendus aux clients un an à l'avance. Donc, il n'y a pas non plus une latitude pour tout changer à la dernière minute quand le prix du transport, oui, flambe ou les matières premières flambent. Donc, on voit que ça a été relativement bien contenu sur cette fin d'année. Ensuite, il va y avoir un impact sur l'année 2022, comme dans tous les domaines d'activité. C'est pas spécifique aux jouets. Tous les produits de grande consommation, alors qui par le transport, qui par les matières premières. À date, c'est un petit peu difficile d'évaluer le niveau d'inflation. Maintenant, bah, c'est le travail des fabricants de rationaliser leur offre et peut-être de travailler différemment leurs produits, la taille des packagings, etc., pour que notamment le coût du transport soit moins élevé et limiter les hausses et donc l'impact sur le prix final.
Frédéric Teude, vous confirmez. Pas de hausse des prix à l'heure où on commence à parler pas mal d'inflation, pas de hausse des prix sur les jouets cette année.
Alors, on a fait une petite étude sur, oui, les meilleurs jouets vendus en octobre et on constate une augmentation de 3% sur, oui, les 100 meilleurs ventes. Donc 3%, vous voyez, c'est relativement négligeable. Donc sur un jouet à 10 euros, ça représente 30 centimes. Et si on parle d'un beau cadeau de Noël à 50 euros, ça fait 1,50 euro. Donc je pense que pour l'instant, c'est un phénomène relativement invisible pour le consommateur. Et comme le dit Christophe, c'est vraiment contenu.
Question de Catherine au standard. Bonjour Catherine.
Oui, bonjour.
C'est une grand-mère de 4 petits-enfants qui nous parle, je crois.
Tout à fait, j'ai 4 petits-enfants, entre 15 jours et 12 ans.
Oui.
Et pour ma part, je fais le choix de n'acheter les jouets de Noël que dans des associations caritatives, Emmaüs, Notre-Dame des Sans-Abris, donc des jouets de seconde main que je trouve toujours en excellent état, magnifique, et qui font le bonheur de mes petits-enfants. Et pour moi, c'est aussi l'occasion d'envoyer un message fort à mes petits-enfants et à leurs parents sur la protection de l'environnement et la nécessité de solidarité et d'éviter le gaspillage.
Merci pour ce témoignage. Frédéric Teute, est-ce que les acheteurs comme Catherine restent l'exception? Petit 1, le côté seconde main, et petit 2, le côté achat éthique. Est-ce que ça reste marginal ou est-ce que vraiment ça se développe?
Alors ça se développe doucement, je dirais plus pendant l'année que pour Noël, mais c'est effectivement une tendance importante que l'on surveille. Ceci étant, les fabricants font des efforts énormes pour essayer d'être plus en accord justement avec ces nouvelles valeurs des consommateurs. Et je reviens juste du salon du jouet de Deauville où j'ai pu voir que de nombreux fabricants maintenant utilisent du plastique recyclé et recyclable, que la taille des boîtes a diminué justement pour les mêmes raisons, et qu'on élimine le plus possible le plastique ou les plastiques qui entourent les boîtes. Donc c'est vraiment une volonté de la part de tous les fabricants, qu'ils soient français, européens, internationaux, et ils sont bien entendu à l'écoute de nos consommateurs.
Eh bien, ça nous amène au témoignage de Sarah. Bonjour Sarah.
Oui, bonjour. Alors moi je vous appelle parce que je suis maman d'un petit garçon qui a un an, et c'est vrai que j'ai de grandes difficultés à trouver des poupons non toxiques. C'est difficile de trouver les composants, même pour des grandes marques connues. Et du coup, bah, pour son anniversaire, là, j'ai opté pour un poupon en tissu, mais ça n'a pas du tout le même succès. Et donc, je voulais savoir comment être sûr de trouver des jouets, notamment des poupées, qui ne soient pas toxiques.
Restez en ligne, je vais poser la question à Christophe Drevet, et puis si vous voulez réintervenir. Est-ce que c'est clair ou net? C'est clair et net ou pas, les composants?
Ah oui,
théoriquement,
c'est absolument clair et net, et on peut pas parler de poupons toxiques, ça n'existe pas. En tout cas, tous les jouets de marque représentés par la fédération et qu'on trouve chez les distributeurs répondent à des normes extrêmement strictes. Le jouet, hein, il faut le savoir, c'est la catégorie de produits la plus encadrée, la plus normalisée, la plus réglementée, et c'est tout à fait normal vu le public auquel on s'adresse. Donc, il n'y a pas de poupons toxiques. Il y a un travail qui a été fait sur les plastiques, sur les teneurs. Il y a des discussions en permanence, hein, au niveau européen, parce que c'est vraiment une réglementation européenne qui s'applique à tous, qui est en cours. Et le travail est permanent pour ne pas laisser des produits qui pourraient avoir la moindre toxicité pour les enfants.
Et Sarah, vous avez du mal à les repérer, ces normes ?
Mais en fait, c'est par exemple de regarder la composition des poupées, même sur le site. Je ne vois pas du tout ce qu'il y a en fait dans, parce que notamment la question du parfum pour certaines poupées, du parfum un peu vanillé. Et j'avais lu, mais c'était les artistes. Ah mince, pardon. Oui. Mon petit garçon.
Ah bah oui. Bah, il réclame sa poupée. Bah tiens, on va soumettre votre remarque à Frédéric Teut. C'est bien,
juste une chose, un moyen très simple, hein, normalement tous les jouets doivent avoir un marquage CE, c'est une façon très simple déjà de vérifier s'ils sont bien en accord avec toute la réglementation européenne, et normalement il n'y a pas un seul produit sur le marché qui n'a pas cette norme.
Réglementation. Frédéric Teut, il nous reste deux petites minutes. Marque française, 14% du chiffre d'affaires du marché, c'est bien ça, on est au niveau de 2018. Est-ce que marque française veut dire « made in France » ?
Alors pas forcément, mais ça peut être le cas, effectivement. Je peux vous donner quelques exemples. L'année dernière, le jouet le plus vendu en France, c'était la Fabrica Histoire de Luni. C'est une société française qui a rapatrié toute sa production de l'Asie jusqu'à Bayonne et qui maintenant se fait fort de répondre à la demande grâce à un produit made in France. Un très beau produit qui n'a pas d'écran et qui se vend beaucoup pour les petits, et surtout quand ils pleurent aussi, donc ça peut aider votre auditrice.
et donc sur ces marques françaises qui représentent 14% du chiffre d'affaires, combien vraiment fabriquent en France ?
Ça reste marginal ? Oui, ça reste marginal. Mais ceci dit, encore une fois, étant donné tout ce qui se passe au niveau logistique, les fabricants réfléchissent à la relocalisation et sont en train de mettre en place justement une relocalisation parcelle pour certains d'entre eux, pour essayer de faire revenir les produits en Europe. Mais pensez par exemple à Lego ou Playmobil, qui sont de très grosses marques européennes. Oui. Ils ont tous les deux des unités de production, donc chaque région qu'ils servent est donc en Europe. Donc c'est pas forcément la France, mais l'Europe. Aussi.
Christophe Drevet, j'ai l'impression que ces histoires de relocalisation de fabricants de jouets, ça reste l'exception. Alors Frédéric Teut nous dit que ça se développe, mais qu'on n'est pas encore dans un phénomène massif, ça reste très limité quand même.
Alors ça reste limité, il y a une vraie volonté de le faire. Après, la relocalisation ou la réindustrialisation est un processus très long. Ouais. Il faut recréer des compétences, des talents dans un tas de domaines, et ça prend du temps. Donc il y a une volonté forte de beaucoup de fabricants de se dire, a priori oui, essayons de faire sur place. Maintenant techniquement, on se trouve confronté à de nombreuses difficultés, c'est un processus qui prendra quelques années. Moi, je voudrais juste rajouter, puisqu'on est à un mois de Noël,
10 secondes,
ouais. C'est que un petit enfant français joue 1h30 par jour. C'est en France qu'on joue le plus. Et les confinements précédents ont montré à quel point le jouet était essentiel à leur développement.
Et Jean Lebrun, qui est un grand enfant et qui vient d'entrer en studio, opine du chef. 13h45, merci à tous les deux d'avoir été avec nous.
Merci. Merci.
France Inter, le 13-14.
Nous allons jouer avec Jean dans 10 minutes, le vif de l'histoire. Bonjour, cher ami.
Je pine du bonnet aussi.
Vous, les femmes du Panthéon, pour l'instant, dernière d'une série de chroniques depuis le début de la semaine tout à l'heure. Et aujourd'hui, celle à qui on rendra hommage mardi, Joséphine Baker.
Exactement, vous avez bien dit.
Baker, et on va s'arrêter un instant sur la prononciation de ce nom tout à l'heure. Avant cela, le feuilleton, nouveau moment avec les deux bouchers que nous suivons depuis le début de la semaine. Aujourd'hui, le commerce de proximité. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
À votre micro aujourd'hui, une chanteuse qui vient de sortir son premier album. Elle s'appelle Pauline Rambaud de Barallon, alias PR2B. Et l'album s'appelle Rayon Gamma.
Et je l'ai tout d'abord questionnée sur son nom d'artiste, PR2B, trois lettres, un chiffre un peu étrange, mais elle l'assume parfaitement.
C'est à la fois quelque chose de très très près, parce que c'est très très moi. On m'appelle comme ça depuis très longtemps finalement, donc à la fois il y a quelque chose de très intime, et en même temps il y a quelque chose de complètement mystérieux de ces initiales. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas ce qu'on va entendre en regardant ces lettres.
Ça fait un peu robot.
Oui, ça fait robot, ça fait sans genre, ça fait... Ça fait des consonnes aussi, ça j'aime bien les consonnes dans mes textes, j'aime bien quand ça frotte, donc je crois que tout ça, ça me plaît bien. I've seen it all, I have seen the trees, I have seen the willow leaves dancing in the breeze. I've seen a man killed by his best friend and lives that were over before they were spent. I've seen what I was and I know what I'll be. I've seen it all, there is no more to see.
C'est donc une chanson de cinéma qu'a choisi PR2B, Frédéric, I've Seen It All de Björk.
Beaucoup de consonnes aussi dans Björk. Et il s'agit là d'un extrait de la tragi-comédie musicale Dancer in the Dark de Lars von Trier, Palme d'Or en 2000 à Cannes. Pour la BO, Björk a enregistré ce duo avec Thom Yorke, le leader de Radiohead. Quant à PR2B, c'est après avoir vu ce film, elle était toute jeune à l'époque, qu'elle a commencé à écouter et à adorer la chanteuse islandaise.
Vraiment, ma découverte de l'artiste s'est faite par Dancer in the Dark, donc cette chanson. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert sa voix en découvrant aussi son corps et son incarnation de ce personnage-là, où je pense que c'est un truc qu'on voit rarement quand même au cinéma. C'est une déflagration hallucinante.
Dancer in the Dark a fait chavirer le cœur des festivaliers. Une interprétation bouleversante de Björk lui vaut le prix d'interprétation féminine.
Cette chanson, elle est assez représentative de plein de choses. D'abord, cette voix qui est incroyable. Cette scène de film qui est incroyable, Björk, son personnage qui s'appelle Selma, travaille à l'usine et commence à perdre de plus en plus la vue. Et en fait, elle a un amoureux transi qui est vraiment le personnage de l'homme gentil, parce que souvent tous les hommes là dans ce film sont quand même souvent très méchants. Il veut toujours la ramener en voiture, elle veut jamais.
Sachant que dans l'histoire, elle cache qu'elle devient aveugle.
Absolument. Et en fait, à ce moment-là, elle prend le chemin qui traverse les voies ferrées et il l'accompagne. Et il a une intuition et il dit « mais en fait, tu n'arrives plus à voir ».
You can't see, can you?
Tout le travail que je trouve assez génial et d'une modernité folle, c'est que le bruit des roues, parce qu'il y a un train qui passe, fait le début de la rythmique de la chanson. Et la chanson est hyper belle, parce qu'il lui dit « mais est-ce que t'as pas envie de voir la Tour Eiffel ou l'Empire State Building ?» Et elle lui dit « mais en vrai, j'ai tout vu. »
Est-ce que vous arrivez à mettre des mots sur la voix de Björk ?
Je crois que ce qui est très fou avec Björk, c'est que j'ai à la fois l'impression qu'elle me crie dessus, qu'elle me murmure quelque chose, et en même temps qu'elle est dans la musique pure. Et moi, je trouve que Björk, plus elle chante haut, et plus on tombe bas. Enfin, il y a un truc comme ça où elle nous met à terre, quoi. Plus elle monte. Il y a quelque chose quand même comme un volcan qui explose, quoi.
Björk, I've Seen It All. C'était donc, Frédéric, le choix de la chanteuse PR2B.
PR2B qui sera demain soir en concert à Belfort, à La Poudrière, et samedi à Fouesnant, théâtre L'Archipel.
À demain.
À demain.
Le feuilleton est le quatrième moment avec nos bouchers doubles. C'est le nom de leur boutique à Paris. Roland de Linares, Benjamin Tixier ont décidé de se reconvertir dans la boucherie autour de la trentaine. On va d'ailleurs arriver au bout du désossage de la cuisse de bœuf qu'ils ont entamé dans le premier épisode. Mais vous allez les entendre au micro de Sarah Guibaudot. Ce qu'ils aiment avant tout, c'est de faire partie de la vie du quartier avec leur boucherie.
Donc là, il y a le jarret qui va être vendu en bourguignon. Là, il y a la semelle qui va être travaillée, là, une grande partie en steak haché, avec le rongit ou alors en carpaccio, où on peut en faire des roast beef cuits. Et même les os ont leur destination culinaire, puisque l'hiver, on les donne aux clients pour faire les bouillons du pot-au-feu, à mettre dans leur sauce de bourguignon. Et l'été, on les coupe pour ceux qui les aiment au four. Bonjour madame, vous allez bien? Trois tourneaux d'eau dans le filet? Nous, on est plutôt leftard dans cette boucherie, on arrive à 6h30. Benjamin va juste parfois, donc là c'est 4 heures. On travaille le samedi et le dimanche matin. On est tous les deux mariés avec des enfants, donc c'est pas, finalement pas pour nous que c'est le plus compliqué, mais c'est plus pour nos femmes qui sont la semaine au travail et le week-end à s'occuper seules des enfants. On est très heureux comme ça, mais c'est des contraintes, c'est sûr.
Messieurs, dames, bonjour. On s'occupe de vous? Choucroute? Ouais. La raclette choucroute, là, ça y est, c'est parti.
Ce qui nous a attiré dans ce métier, c'est déjà d'être commerçant, faire partie de la vie de quartier. Après, on s'est très vite tourné vers les métiers de bouche parce que c'est quelque chose d'important pour nous, c'est des moments qu'on aime.
En fait, on a grandi pas très loin d'ici. On connaît les écoles à côté, on connaît tous les commerçants autour. Enfin voilà, on fait partie d'un petit village là où on est.
Notre métier, il est assez en soi répétitif en termes de gestes et de choses à faire. Mais ce qui fait que chaque jour est différent, c'est justement ça, les contacts avec les gens. On a à la fois les personnes âgées qui viennent une fois par jour acheter leur steak, leur blanc de poulet. Et puis, de temps en temps, ils n'achètent rien. Ils viennent juste nous saluer. Quand ils passent, on a une boutique ouverte sur la rue. C'est sympa, il y a des relations qui se créent.
Et voilà. Merci beaucoup, bonne soirée.
Bonsoir, madame. C'est important les commerces de proximité, les commerces de bouche dans un quartier.
C'est pas important, c'est vital pour moi. Parce que je fais pas mes courses dans les supermarchés, j'ai moins les moyens de faire autrement. C'est ça aussi la problématique, je pense. Je fais du bénévolat au Resto du Cœur. Et quand je vois les filets de poulet venant de Pologne, je me dis que vraiment, quand on est pauvre, on a la double peine. Hein.
Alors nous, pendant le confinement, on a eu la chance de pouvoir travailler, on était un commerce essentiel. C'était satisfaisant, voilà, de voir qu'on apportait aux gens un peu de bonheur, si je puis dire.
On a vécu ça au bout d'un an d'ouverture de la boucherie. Au début, on n'était pas prêts, mais c'était une super expérience humaine avec notre équipe à nous et avec nos clients, parce qu'on a découvert plein de nouveaux clients. On dit, allez, c'est le moment de se tourner un peu vers nos commerces à côté de chez nous. On n'est pas obligé d'aller à 21h au supermarché. Les gens ont besoin de retrouver justement du lien. Le confinement, je pense, l'a montré. On a besoin de vivre autour de nous, autour de chez soi et de rencontrer les gens qui vivent avec nous.
Dernier épisode du feuilleton demain. Il est réalisé par Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire, quatrième et dernière chronique consacrée aux femmes du Panthéon, avant l'hommage et l'entrée au Panthéon mardi de Joséphine Baker. C'est d'elle que vous parlez aujourd'hui. Pourquoi faut-il prononcer Baker, s'il vous plaît?
C'est elle qui demandait qu'on la nomme ainsi. Elle était plus fière de son français, acquis de haute lutte, que de son anglais, qui trahissait toute la misère de Saint-Louis et de ses quartiers pauvres, où elle avait vécu son enfance. Et puis, en 39, recevant dans sa villa du Vésinet le capitaine Aptet, avec qui elle allait faire équipe dans les services secrets, elle lui avait dit « C'est la France qui m'a fait ce que je suis. Je suis prête, capitaine, à lui donner ma vie. »
Elle prononce ses paroles à Beauchêne, sa maison du Vésinet. On associe volontiers le nom de Baker à de grandes demeures, le château des Milandes, où elle accueillera tant d'enfants adoptés, notamment.
Mais on peut aussi penser aux cabarets intimes, son amant, mentor, manager, Giuseppe Abbatino, surnommé Pepito, lui en ouvre un dès décembre 1926 chez Joséphine, rue Fontaine, Truden, 0711. J'ai noté le numéro dans le dernier livre consacré à Joséphine, celui de Gérard Bonal chez Talandier. Mais on peut aussi associer Joséphine au paquebot. En 1925, sur le Berengaria, je ne sais pas comment vous prononcez.
Berengaria, moi je dirais.
Ouais. Elle n'est qu'une dans la troupe embarquée des quelques 25 artistes de la Revue Nègre. Mais sur la scène des Champs-Élysées, elle est de suite la vedette, dès les répétitions. Et ensuite, Pepito s'emploie à lui donner une stature internationale et les voyages en bateau au long cours vont s'enchaîner. Exemple, 1929, le Giulio Cesare jusqu'à San Polo, puis le retour du Brésil en France avec le Lutetia. Vous allez voir que le bateau peut se combiner à la maison. Parce que sur le quai, Joséphine s'exclame « Tiens, monsieur le Corbusier !» C'est en Argentine, où l'architecte faisait une tournée de conférences, que la première rencontre s'était produite. Et pendant la longue traversée, le Corbu, épaté, dessine Joseph dans Joséphine, dans de nombreuses positions. Nu, couché dans un peignoir rose et argent, mais note-t-il dans son carnet, elle raccommode les chaussettes de Pepito. Avec Pepito, il discute à trois de la maison que l'architecte pourrait construire pour Joseph, non, Joséphine. Elle aime bien ce que j'appellerais l'architecture nudiste, vous voyez, dépouillée, qui permet les bains de soleil. Le Corbu, qui adore le jazz, commence à écrire un ballet pour elle. Un homme et une femme dansent l'un contre l'autre. Joséphine s'avance, chante, et au loin, il y a un grand transatlantique. Plus tard, elle racontera qu'au passage de la ligne sur le Lutetia, le Corbu se déguise en Joséphine Baker. Il aurait fait un bon partenaire, il est comique à froid, disait-elle. Le Corbu mourra dans son fameux cabanon de la Côte d'Azur, non loin de la villa de Joséphine que lui a prêté la princesse Grâce de Monaco.
Allez, encore une maison et une rencontre.
Pendant la guerre, elle a fait d'un palais de Marrakech un grand centre de renseignement anti-nazi, vous voyez, plafond de chêne dans les salons, fontaine dans les patios. Et à la Noël 43, un visiteur inattendu, François Mitterrand. Retour d'une entrevue escarpée avec le général de Gaulle. Philippe de Chartres, un gaulliste, le décrit ainsi à l'époque. Il est morlant dans la résistance, des pantalons de golf, de grosses chaussures de montagne, des mollets nus et les cheveux collés au backer fixe.
C'est quoi le backer fixe?
Ben, c'est une idée de génie de Pépito, un fixateur pour la coiffure des hommes et dont les femmes se servaient aussi pour farder leurs paupières. Ses contemporains, même s'ils n'ont rien partagé de sa vie d'aventure inouïe, ont tous eu quelque chose de Joséphine Baker.
Qui entre donc au Panthéon mardi prochain, et le livre de Gérard Bonnal, c'est chez Talendier, Joséphine Baker, du musical au Panthéon.